Qui aime prendre des risques? C'est pour un sondage. Levez la main. Oh, ah, quand même, quelques-uns. Oui, ouh, des courageux. 3, 4, 5, 6, 7. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à prendre ce risque-là? Le saut à l'élastique. Il y a quelqu'un qui m'est proche, et qui est très proche d'ailleurs physiquement, là, qui a sauté à l'élastique il y a quelques mois. Et à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées. Et je lui ai demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit, c'était horrible. Alors je lui demande, c'était horrible quand? Au départ ou à l'arrivée? C'était tout le temps horrible. C'est un risque énorme de sauter à l'élastique. Mais pour autant, on peut ne pas aimer ce genre de risque-là, mais le risque fait quand même partie de notre vie. Vous ne seriez pas là ce matin si vous n'aviez pas pris le risque de vous déplacer en voiture. C'est un risque, hein, quand on regarde les statistiques, ou de traverser même la rue Georges Clémenceau, là juste devant, j'ai vu plusieurs accidents. Vous avez pris le risque et vous avez bien fait. Et nous prenons des risques depuis le début. Rappelez-vous, quand vous aviez un an, ça remonte à longtemps pour certains, et que vous appreniez à marcher, vous avez pris le risque de déplacer votre centre de gravité vers l'avant, et donc d'être en déséquilibre, et de rattraper avec vos petites jambes toutes potelées quand vous étiez bébé. Vous avez pris le risque. Chaque pas est une mise en déséquilibre et donc une prise de risque. Mais il faut prendre le risque si on veut marcher, si on veut avancer dans la vie. Et la vie continue sur ce mode-là, sur le mode de la prise de risque. Jacques Poujol, pasteur, psychologue ou psychothérapeute chrétien, disait que le développement psychologique de l'enfant dépendait de sa capacité à prendre des risques dans la vie. Et qu'un des messages les plus négatifs qu'on pouvait lancer à un enfant était « Ne cours pas, tu vas tomber. Ne monte pas là-dessus, tu vas tomber. Ne va pas là, tu vas te salir. Ne fais rien sans que je sois là. Ne prends pas de risques, mon petit chéri. » Et l'enfant va comprendre ce message qui se veut protecteur et qui est souvent protectionniste. Il va le prendre comme un message négatif. Ne prends pas de risques parce que tu n'en es pas capable. Poujol poursuit en donnant l'exemple de ces mamans qui habillent leur enfant jusqu'à 6 ans et qui déposent leur enfant de 12 ans devant l'école pour ne pas prendre de risques. Et ce n'est pas un bon message. Mais il y a avec Poujol, Jacques Poujol, le psychothérapeute chrétien, un espoir qui est de remplacer le message négatif par 5 messages positifs qui seraient « Vas-y, fais-le, t'en es capable, tu es capable de prendre ce risque-là. » Parce que la vie est faite de risques à prendre et on pourrait les énumérer à l'adolescence, prendre le risque de l'ouverture au groupe, de sortir de la maison et de se faire des amis, développer des relations, les jeunes adultes prendre le risque de choisir des études, un métier, et puis quelqu'un pour partager sa vie, le risque énorme du mariage. Quand j'avais 21 ans, je vous en ai déjà parlé, 3 mois avant mon mariage, j'ai travaillé dans un supermarché, le Super GB de Bruxelles, et une dame très âgée, au moins 40 ans, m'a dit, parce que je lui parlais de mon mariage prochain, elle disait, oh, tu sais, le mariage, c'est une loterie. Bon, c'était pas très encourageant pour moi, mais c'était pas tout à fait faux. Il y a un risque à prendre dans le mariage, et il faut l'assumer aussi dans le mariage, et il faut le prendre, ce risque, sinon, adieu, en tout cas, pour ma part, aux brownies et aux cookies que ma femme prépare depuis presque 40 ans. Et le mariage, un beau risque à prendre sous le regard de Dieu. Tout cela pour vous dire que la vie est faite de risques, parce que la vie est faite de choix, et dès qu'il y a choix, il y a un risque, et vous savez qu'il y a un seul endroit où il n'y a plus de choix et donc plus de risque, c'est la mort. Et quelqu'un disait, quand on est mort, on ne risque plus rien. Et à prendre peut-être dans les deux sens. Hein. La vie est faite de risques à prendre, sinon on ne vit plus. Et c'est encore plus vrai quand on aborde la question de la foi en Dieu. Ce serait aussi un risque à prendre si on veut vivre vraiment. si on veut vivre véritablement, si on veut vivre la vie, la vraie, la vie en vérité, le risque de la foi. Il y a Georges Bernanos qui a écrit le journal d'un curé de campagne, mais aussi sous le soleil de Satan, mais qui écrivait, et c'est une phrase très belle, qui est sur votre, enfin sur l'écran, l'espérance, moi je mets la foi là-dedans, la foi chrétienne, l'espérance chrétienne, est un risque à courir, c'est même le risque des risques, nous dit Bernanos. L'espérance n'est pas une complaisance envers soi-même, elle est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme peut remporter sur son âme. Ça, c'est de l'écrivain français chrétien. Alors pourquoi la foi ou l'espérance est-elle le risque des risques ? Eh bien parce que la foi chrétienne ou l'espérance chrétienne a pour objet des choses invisibles, des choses que l'on ne voit pas. Et quand on manque de visibilité, le risque est énorme. Et pour ceux qui font du ski de randonnée ou de la randonnée ou du ski d'ailleurs, en savent quelque chose, même si le risque zéro n'existe pas en montagne, ni dans la vie d'ailleurs, il vaut mieux avoir du soleil que du brouillard. Il vaut mieux avoir de la visibilité que de l'invisibilité. La comparaison n'est peut-être pas géniale, mais la foi s'exerce dans le domaine invisible. Et donc le risque est énorme. Et d'ailleurs, c'est la définition de la foi que nous donne l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Voilà ce qu'il dit dans la version Parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses que l'on ne voit pas, les choses invisibles, existent vraiment. Donc la foi, c'est une prise de risque par rapport à l'invisibilité. Et il y a plusieurs personnes dans la Bible et dans la vie qui ont pris ce risque-là. Je pense à Noé qui risque le ridicule en construisant un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau à 200 mètres, à 200 kilomètres alentour, le risque de ridicule. Abraham, le risque de partir de chez lui pour une postérité alors qu'il a passé l'âge. Le risque du leadership, Moïse, le risque de partir et du pays d'Égypte, et de faire sortir tout un peuple du pays d'Égypte, le risque du leadership. Josias, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce roi, Josias ou le risque de la réforme. Et on sait en France combien une réforme est difficile à passer. Josias en réforme et des réformes spirituelles. Le risque de la réforme. Et je passe au Nouveau Testament, à Marie, la mère de Jésus, la prise de risque de devenir la servante du Seigneur alors qu'elle n'est rien, elle n'est personne. Pierre, le risque de l'Église, Paul, le risque de l'évangélisation interculturelle, Lydie, vous savez, cette marchande, cette femme d'affaires qui habite à Philippe en Macédoine, le risque de l'hospitalité, Hudson Taylor, le risque de la mission en Chine du 19e siècle, George Muller, le risque de l'aide aux orphelins à Bristol. Ouais, tous les risques, toutes les prises de risques dans l'invisible. Et nous, serions-nous capables de prendre le risque de la foi, de faire ce saut dans l'invisible ? Je discutais avec quelqu'un il y a quelques années sur la question de la foi, et cette personne que je respecte beaucoup, que je respectais beaucoup à l'époque et encore aujourd'hui, m'a dit: écoutez, j'ai demandé à Dieu pour avoir la foi, mais il ne s'est rien passé. Et je lui demandais ce qu'elle avait demandé, et elle m'a répondu, j'ai demandé un signe. J'ai demandé un signe, et je n'ai rien reçu, donc je n'ai pas la foi. Et elle était très déçue. Et moi, avec elle, j'étais déçu qu'elle attende encore un signe, alors que tous les signes ou les signaux étaient au vert, et qu'il ne fallait plus qu'un saut dans la foi. Triste de voir que cette dame était tout près, toute proche de la foi, et qu'elle n'était pas prête à faire le saut de la foi, le saut dans l'invisible, la prise de risque pour se jeter à pieds joints dans la foi et dans les bras de Dieu par la même occasion. Et vous savez, Jésus va dire une parole énorme, une parole qui a frappé les quatre évangélistes. Donc les auteurs des quatre évangiles, qui étaient certainement évangéliques aussi, cette parole de Jésus les a frappés parce qu'elle revient dans les quatre évangiles et même plusieurs fois dans le même évangile, 10 fois dans les quatre évangiles. Jésus parle à ses disciples, il les envoie en mission, une mission à risque, une mission pour annoncer le royaume de Dieu, avec les risques de persécution, avec des risques de qu'ils passent devant les tribunaux, les risques de rejet par la société. Mais Jésus va leur dire, en Matthieu 10, 39, « Celui qui aura assuré sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi l'assurera. » Il y a une promesse dans cette parole de Jésus, le Fils de Dieu. Mais il y a aussi une mise en garde, celui qui cherchera à assurer sa vie. Alors il y a toutes les traductions possibles, celui qui cherchera à protéger sa vie, à garder sa vie, à préserver sa vie, à s'accrocher à sa vie, à sauver sa vie même, à s'attacher à sa vie. Et j'en ajouterai un autre verbe, celui qui cherchera à sécuriser sa vie, à avoir une vision sécuritaire de sa vie, par tous les moyens possibles, et surtout à ne pas prendre de risques, alors, parce que ce n'est pas sécuriser sa vie que de prendre des risques. Celui-là, il va la perdre. La vie qu'il cherche à protéger, à sécuriser, parce que dans la vie, il faut prendre des risques, le risque de la foi. Et Jésus met en garde, qui veut l'entendre, contre le danger qu'il y a à s'accrocher à sa vie dans ce qu'elle a de visible et d'immédiat, et de ne pas prendre le risque de l'invisible, le risque de la promesse, le risque de la foi, le risque d'y croire, c'est-à-dire de faire confiance. Alors, on pourrait se mettre à calculer le risque. Il faut faire attention, quand on parle de risque, de ne pas toujours penser à des risques inconsidérés, irrationnels, comme un saut dans l'absurde, comme dans ces sports à haut risque. Moi, j'ai été au Portugal, à Nazaré, donc santé, pas Nazareth, mais Nazaré, où il y a la plus grande vague d'Europe. Et j'ai vu, il n'y avait pas de grosses vagues quand on était là, mais j'ai vu l'endroit. Il y a des vagues de 25, 26 mètres de haut. Il y a une surfeuse française qui l'a faite il n'y a pas longtemps, mais c'est un risque inconsidéré. Il y a des gens qui meurent sur ces vagues, qui se noient. Est-ce que le risque de la foi est un risque de ce genre-là, un risque inconsidéré? Alors quelqu'un a calculé le risque de la foi, un type tout à fait génial. À 11 ans, il rédigeait déjà un traité sur les sons. Les sons. À 16 ans, un essai sur les coniques. À 19 ans, il inventait la machine arithmétique qu'on appelait la pascaline, parce qu'il s'appelait Pascal, Blaise Pascal, Blaise Pascal, génie mathématique du XVIIIe siècle, mais aussi chrétien, converti après plusieurs événements marquants dans sa vie, comme un accident de carrosse. Pascal a eu un accident de carrosse et après il s'est mis devant Dieu. Et il a écrit des pensées. Et une de ses pensées, on l'a appelée le pari de Pascal. Et il imagine une discussion avec un ami joueur. Et on jouait beaucoup au XVIIIe siècle. On jouait aux dés, aux cartes, à la loterie, partout, sur les places, les terrains vagues, le long des faubourgs, à la cour royale, on jouait. Et on se divertissait par les jeux et on pariait beaucoup. Comme aujourd'hui, hein, avec BetClick ou des trucs comme ça. Sur Internet, on a plein d'annonces pour des paris. On pariait beaucoup et on appelait ça, enfin, le pari, ou parier, on appelait ça hasarder. Donc, on hasardait beaucoup. On pariait beaucoup à l'époque. Et Pascal transfère cette question du risque dans le domaine du jeu au domaine de la foi. Et il aura ces mots à la pensée 451, pour être précis. Regardez ça. Donc, moi, j'aime bien Pascal, hein. Donc, je vous le partage, mais c'est pour mon plaisir. J'espère que vous aurez aussi du plaisir. Il dit, si vous vous lancez dans la foi, si vous perdez, vous ne perdez rien. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Parce que si vous perdez, si c'est pas vrai, ben, qu'est-ce qu'on perd? Pas grand-chose. Peut-être d'avoir à souffrir quelques cultes, donner un peu d'argent, si vous... mais pas grand-chose. Par contre, si vous gagnez, vous gagnez tout. Et Pascal continue en disant que, et là, je le cite encore, dans une infinité de hasards, si dans une infinité de hasards, vous n'aviez qu'une chance de gagner deux ou trois vies supplémentaires, cela vaudrait la peine de le faire. vous seriez sage de le faire, c'est-à-dire de hasarder votre vie pour gagner non pas deux ou trois vies supplémentaires, mais une infinité de vies infiniment heureuses, et il parle de l'éternité en Dieu. Il n'y a point à balancer, il n'y a point à hésiter, il faut tout donner. Le risque est tout à fait raisonnable pour le joueur que tu es, parce qu'il s'adresse à un joueur. Vous risquez le fini pour gagner l'infini. Vous risquez le visible pour gagner l'invisible. Vous risquez le temporel pour gagner l'éternel. Alors, c'est pas un argument pour l'existence de Dieu, c'est pas une preuve irréfutable sur l'existence de Dieu, mais il s'adresse à un joueur. S'il s'agit de jouer, vous gagnez tout en misant sur la foi en Dieu. Alors, on va dire que l'autre ami joueur, parieur, est presque convaincu, mais comme tout le monde, il aimerait bien voir le dessous des cartes, le jeu de l'autre. Et là, Pascal, dans la suite, parle de la Bible, la parole de Dieu, qui nous parle de Jésus, de sa vie, de son amour, de la croix, de la résurrection, de la victoire sur la mort. Ce Jésus qui, comme dit Pierre, à les paroles de la vie éternelle, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de l'éternité, de ce Jésus qui frappe à la porte de notre vie. Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui dans un moment de convivialité et de fête. » C'est ça le repas. Et donc, déjà, en regardant tout cela, il y a une énorme incitation au saut de la foi, pas vraiment dans le vide. Et puis, dans le dessous des cartes, il y a aussi le témoignage d'autres personnes qui ont pris le risque de la foi. Leur témoignage compte également dans l'évaluation du risque. Bon, moi, j'ai fait un peu de planche à voile et je me souviens qu'à Narbonne, à Gruissan, avant de m'engager, je demandais aux gars qui en faisaient déjà comment c'était au milieu de l'étang de la nautique. Et parce que on peut partir avec un petit vent et puis au milieu se retrouver avec du 5-6 Beaufort et donc passer un mauvais quart d'heure. Et donc je me renseignais quels sont les témoignages de ceux qui reviennent. Pascal portait son témoignage sur le revers de sa veste, là on l'appelle le mémorial de Pascal, c'est là où il dit joie, 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 Dieu non des philosophes et des savants, mais le Dieu de Jésus-Christ. On l'a découvert après, c'est sa sœur qui l'a découvert, quelques années après sa mort, au revers de sa veste. Le mémorial, le témoignage de Pascal, il y a été. Et puis, on peut prendre aussi le témoignage de Patrice, un type du nord de la France, un ch'ti, scientifique, cartésien, qui travaille en Belgique, un frontalier, dans le secteur recherche et développement, R&D. Sa mère meurt en 97. « Moi, dit-il, le fils unique, je me suis senti trébucher. Pourtant, le matériel, après, a repris le dessus, je venais de devenir propriétaire. Et j'oublie les questions de la vie qui me rattrape en 2009, quand son père meurt également. » Voici ce que dit Patrice. « Célibataire, d'un coup, je me suis retrouvé bien seul, sans père, ni mère, sans sœur, sans frère, sans famille dans les parages, seul à regarder l'avenir et la mort. » Et puis, le parcours alpha. « J'ai bien aimé les repas, nous dit Patrice. » Mais il nous dit aussi, c'est surtout la lecture du Nouveau Testament qui m'a transformé et qui m'a aidé à faire le saut. Voilà donc un autre témoignage que l'on ajoute à celui de Pascal et à tous les autres, et aux témoignages de la Bible, du Nouveau Testament et de l'Ancien, qui nous font penser que le saut ou le risque n'est pas aussi inconsidéré que cela, même s'il reste un saut, malgré tout. Et puis, il reste un élément à prendre en considération dans cette histoire de risque à prendre. Cet élément, c'est le risque que Dieu lui-même a pris. Dieu a pris un risque énorme déjà en créant le monde et surtout les créatures que nous sommes. Il a pris le risque qu'on ne lui rende pas cet amour. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas un enfant de cœur puisqu'il a commandité plusieurs meurtres, voici ce qu'il nous dit en Romains 5:8, « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. alors que nous n'étions encore que des pécheurs, ou alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et tout est dans le « alors que nous étions encore des pécheurs ». Alors que Paul et Patrice, le ch'ti, et tous les autres, étaient encore des pécheurs, c'est-à-dire pas franchement méchants, mais pas franchement gentils non plus, ou des gens tout à fait indifférents à l'amour de Dieu, des gens qui étaient loin de s'occuper de la foi et de ces questions, eh bien par rapport à tous ces gens, et au fait par rapport aussi à toi, Christ a pris le risque de démontrer son amour en venant mourir sur une croix. Alors que nous ne présentions aucune garantie d'une réponse à cet amour, alors qu'il n'y avait aucune sécurité dans cette aventure de l'incarnation et de la crucifixion, qu'il y avait très peu des chances pour que nous lui disions merci en retour, Dieu a pris le risque de nous aimer en Jésus-Christ. Une prise de risque, on va dire, inconsidérée. Une prise de risque alors que nous restions libres de lui dire non, de lui refuser cette démonstration d'amour. Dieu a pris le risque de notre liberté. Et c'est un Dieu comme cela que nous célébrons ce matin, un Dieu risque tout, le risque tout de l'amour qui nous appelle à faire le saut de la foi. Un saut qui reste dans l'invisible, soit, mais dans le concret de son amour bien démontré en Jésus-Christ qui a tout risqué pour nous. Et vous vous souvenez de cette dame qui demandait un signe dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, il y en avait un qui était déjà là. La croix et la résurrection de Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, concret, tangible, que Dieu s'est risqué à nous aimer. La foi, vous savez, ressemble à un parachute. Quand on est dans l'avion et que le parachute est sur le dos, il paraît tout petit, voilà, c'est quelques, un mètre carré peut-être, un petit parachute, et on se demande si quelque chose d'aussi petit va pouvoir prendre notre poids. Parce qu'on pèse lourd, je ne parle pas des kilos superflus, hein, je parle de notre mal-être, notre vide, qui paradoxalement pèse lourd, notre sens ou notre sensation d'absurdité, notre culpabilité aussi, qui pèse lourd. On pèse lourd et on se demande si ce petit paquet va nous retenir, mais on saute, on imagine qu'on saute. On tire la manette, et puis il y a une toile, voilà, de 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, je sais pas, qui se déploie, et elle nous porte. Et elle remplit les promesses, et le vol est libre. J'aimerais m'adresser à ceux qui hésitent encore, à ceux qui n'ont pas fait le saut de la foi. Il y a Pascal, encore lui, qui disait « Il y a assez de lumière pour que ceux qui veulent croire, croient. » Le feu est vert dans l'avion. Il n'y a plus qu'à sauter. Vous pouvez vous arrêter de vous échauffer avant le saut. Ça y est, vous êtes chaud. Le risque est grand de ne jamais sauter et de seulement faire un tour dans l'avion, avec l'avion. Mais le tour en avion n'est pas une fin en soi, c'est le saut de la foi qui compte pour pouvoir expérimenter le vol et la confiance que l'on peut avoir au parachute. Et je vous invite, ceux qui hésitent encore, ceux qui tergiversent, je vous en supplie, au nom du Christ, de faire le saut de la foi, de prendre le risque de confesser votre foi à Dieu d'abord et aux autres ensuite, de prendre le risque éventuellement du baptême qui marque cet engagement à le suivre pour le restant de sa vie et jusque dans la vie éternelle. Ah oui, chers amis, vous qui hésitez encore, faites le saut de la foi, ça vaut la peine. Et ceux qui se sont lancés dans le saut de la foi et qui se sont depuis un peu assoupi. Ceux qui ne prennent plus le moindre risque depuis ce premier saut. Et c'est facile, tout en étant chrétien, de rester dans sa zone de sécurité ou même de confort. Et c'est une tentation que l'on a tous, et je me mets dans le lot aussi. Et je nous lance un appel, pas pour nous culpabiliser, mais et nous inviter à en faire plus, non, mais d'être à l'écoute de Dieu. Ne nous invite-t-il pas à prendre des risques pour lui ? Le risque du service, ou peut-être simplement le risque de continuer à le suivre, à être à sa suite, malgré les doutes, malgré les questions, malgré les échecs, malgré nos peurs. Et puis, prendre le risque du service pour le prochain, le risque de témoigner de sa foi autour de vous, le risque d'inviter un ami au parcours alpha ou un collègue. C'est le risque, hein, le risque de l'invitation, le risque du ridicule. Le risque financier en soutenant une mission, une implantation d'église. Le risque de la mission, de partir en mission, quel que soit votre âge. Vous savez, on dit que la génération Y, vous savez, celle avec les écouteurs, ça forme un Y, ou la génération Millennium, c'est celle des années 2000, n'est pas très aventurière. Ceux qui font partie de cette génération, bien, je leur dis, prouvez le contraire. Prenez des risques pour Dieu. Et vous, parents, laissez vos enfants prendre des risques pour le Seigneur. Laissez-les accomplir leur vocation, et la meilleure façon de les encourager à prendre des risques pour Dieu, c'est d'en prendre soi-même. Prenons ces risques, chers amis, pour la gloire de celui qui nous a aimés le premier. Chaque jour, parions sur Dieu. Prenons chaque jour le risque de la foi, car le risque, c'est la vie. Et je prie pour que cette Église, que nous tous ensemble, et moi avec vous, nous sachions prendre des risques pour lui, pour la gloire de son nom. Amen.